France Culture.
Le journal est signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'aveu, celui de Joël Lescouarnec à son procès, l'ancien chirurgien jugé pour 299 viols et agressions sexuelles, a également avoué des abus sur la fille de son fils aîné. En pleine audience, le compte-rendu de Florence Turm dans un instant. Le cyclone Garance s'abat sur l'île de la Réunion. 3 personnes au moins sont décédées. Les dégâts sont lourds. Lola Fourmi nous appellera de Saint-Denis de la Réunion. Pas de compromis avec Poutine, le tueur. Première déclaration de Volodymyr Zelensky à son arrivé à Washington. Le président ukrainien est actuellement reçu par Donald Trump. Les deux dirigeants doivent signer un accord sur l'exploitation des minerais stratégiques de l'Ukraine et discuter d'éventuelles garanties de sécurité. Le Conseil constitutionnel censure 14 articles du projet de la loi de finances, de la sécurité sociale. Parmi elles, la taxe lapin qui prévoyait de réformer le service du contrôle médical de l'assurance maladie. Les explications de Rosalie Lafarge. Et puis les Césars, 50e édition. La cérémonie a lieu ce soir, présidée par Catherine Deneuve. Nous nous intéresserons à l'effet positif à l'exportation que peuvent avoir ces prix. Comme un puits sans fond ou un vertige, au procès de Joël Lescouarnec, l'ex-chirurgien est jugé depuis le début de la semaine à Vannes pour des viols et agressions sexuelles sur 299 patients, en majorité mineurs. Les premiers témoignages familiaux montrent le silence qui régnait dans la famille. Aujourd'hui, c'est l'aîné des fils de Joël Lescouarnec qui est venu à la barre. Et cet après-midi, le père a avoué à son propre fils qu'il avait abusé sexuellement de sa fille, un fait qui ne se trouvait pas dans la procédure judiciaire. Florence Turm.
En 2020, Joël Lescouarnec est jugé à huis clos par la cour d'assises de Saintes pour viol et agression sexuelle sur sa petite voisine et ses deux nièces. Son fils aîné, appelé à la barre, et il apprend que sa propre fille figure dans les carnets informatiques où son père consignait le nom, le prénom de ses victimes, les actes qu'il leur faisait subir. Un choc énorme, d'autant que le procureur, explique-t-il, ne m'a pas demandé si je souhaitais l'entendre. Il me l'a imposé pour que je prenne conscience de qui était mon père. Lui n'a pas déposé plainte, je voulais protéger ma fille de la médiatisation, ne pas l'exposer davantage. Face à la cour, il livre d'une voix calme, mais les mains crispées, toute sa colère, aussi grande, dit-il, que l'estime que j'avais pour lui. L'avocat général s'étonne. Vous pensez que le silence serait protecteur? J'ai peut-être mal compris, mal interprété. La défense de Joël Lescouarnec risque une explication. Est-il possible que vous ayez pu oublier de manière défensive ce qui vous a été lu? C'est possible. D'une main, il a soigné des gens, poursuit-il. De l'autre, il les a souillés. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, le fils aîné ne souhaite pas qu'on lui donne lecture publiquement de ces mêmes carnets. Le choc viendra de son père. Joël Lescouarnec se lève, s'adresse à lui. « J'ai entendu ta colère et ton désarroi. Oui, je reconnais avoir commis des abus sexuels sur ta fille, ma petite fille. Je te demande pardon. » À la barre, le témoin reste figé, le regard vide, tourné vers le box. « La cour vous remercie », indique la présidente. Elle fait acter les aveux. Il s'agit de faits non prescrits. La petite fille a aujourd'hui 12 ans. Son père quitte la salle d'audience comme un automate.
Florence Turm. À Vannes, par ailleurs, la cour a renoncé à entendre l'adjudante de gendarmerie qui avait procédé aux principaux actes d'enquête et à l'analyse des carnets terriblement affectés. Elle n'est plus en activité à l'heure actuelle. La mairie de Paris sera jugée pour homicide et blessures involontaires dans l'affaire de l'explosion de la rue de Trévise en janvier 2019. Explosion qui avait fait 4 morts, plus de 200 blessés et 400 sinistrés. L'information judiciaire a mis en évidence des fautes d'imprudence et de négligence de la ville de Paris, selon l'AFP. L'affaissement d'un trottoir avait entraîné la rupture d'une canalisation de gaz à l'origine de l'explosion. Et puis, autre procès en vue, celui de 9 CRS accusés d'avoir matraqué des gilets jaunes dans un Burger King près de l'Arc de Triomphe le 1er décembre 2018, l'une des journées les plus violentes des manifestations. Les CRS seront jugés pour violence volontaire avec circonstances aggravantes. Une journée tragique qui s'achève à La Réunion. Ce sont les mots du préfet après le passage du cyclone Garance. Un cyclone brutal et violent qui a coûté la vie à au moins 3 personnes et engendré de lourds dégâts matériels, mais aussi sur les cultures et sur les infrastructures. Sur place, les explications de Lola Fourmi.
Des rafales records jusqu'à 234 km/h à l'est, 214 au nord, du jamais vu depuis 1962 et le cyclone Jenny d'après Météo France. Mais aussi et surtout des trombes d'eau qui ont fait déborder les rivières et les ravines, créer des torrents de boue et emporter notamment deux femmes. L'une d'une cinquantaine d'années à Saint-Denis, retrouvée près d'une bouche d'égout. La deuxième, une mère de famille à trois bassins qui tentait d'évacuer de la boue à l'extérieur et qui a été ensevelie. Des scènes impressionnantes ce soir avec des rues en eau, des milliers d'habitations inondées. Chamlie, habitante de Saint-Denis, dresse un premier constat.
C'est un vrai désastre en fait de chez moi. Ma terrasse, elle est toute inondée, il y a eu de l'eau qui monte. Dans le jardin, tout est par terre. Le jardin ressemble à un lac. Dans tous les quartiers, ben, le nord en tout cas, où je suis, est bien touché.
Des dégâts matériels lourds, il y a ce soir probablement des centaines de Réunionnais et Réunionnaises qui ont vu leur habitation détruite, leur voiture emportée. Le centre hospitalier de l'Est n'a plus d'eau depuis 24 heures. On compte aussi des routes partiellement détruites. Une quinzaine d'axes ce soir sont encore coupés pour laisser les services travailler justement. L'alerte rouge et le confinement qui va avec est prolongé jusqu'à demain 10h du matin. Le préfet prévient: le monde que nous découvrirons demain sera encore défiguré par le cyclone Garance.
Et l'île reste en alerte rouge jusqu'à demain 10h. Volodymyr Zelensky est à la Maison-Blanche. Le président ukrainien est en ce moment à Washington pour des discussions capitales avec Donald Trump. Le président républicain qui a rompu avec la politique de soutien à Kiev de son prédécesseur, Joe Biden. Au centre de cette cinquième visite outre-Atlantique de Volodymyr Zelensky, la signature d'un accord qui porte sur l'accès aux ressources naturelles de l'Ukraine. Nous allons creuser, se réjouissait à l'avance Donald Trump. Évidemment, l'accord est nécessairement avantageux pour les États-Unis et Donald Trump, Loïc Loury.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour cela que Donald Trump se montre désormais bien plus amical avec Volodymyr Zelensky, qu'il qualifiait, il n'y a pas si longtemps, de dictateur avant ce face-à-face à la Maison-Blanche et la signature d'un accord qui ouvrirait donc aux États-Unis un accès aux ressources des sous-sols ukrainiens, pétrole, gaz et surtout terres rares. L'idée pour Donald Trump étant de compenser les milliards de dollars d'aide versés à Kiev par l'administration Biden. C'est un accord juste, dit à l'instant Donald Trump. La question aujourd'hui est plutôt de savoir ce qu'il en sortira de concret pour l'Ukraine et pour Volodymyr Zelensky. Pas de garantie de sécurité pour l'après-guerre, pas d'adhésion à l'OTAN, le président américain l'a déjà dit. Pour son homologue ukrainien au pied du mur, l'idée était d'abord de pouvoir discuter avec Donald Trump, de s'attirer ses bonnes grâces avant la période qui s'ouvre, de ne pas rester sur la touche, en somme, alors que Washington opère un réalignement historique avec Moscou. Zelensky, à ce propos, dit ne pas vouloir de compromis avec le tueur Vladimir Poutine.
Et à l'instant, Volodymyr Zelensky répète qu'il juge crucial que Washington garantisse la sécurité d'une future force de maintien de la paix. Journée de grève générale et de manifestation aujourd'hui dans toute la Grèce pour commémorer le deuxième anniversaire de la terrible collision ferroviaire qui avait fait 57 morts. Il y a 2 ans, jour pour jour, un train reliant Athènes à Thessalonique avait heurté de plein fouet un autre train de marchandises à 350 km environ d'Athènes. Dans la capitale, le rassemblement a été émaillé de violence, comme le montrent les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Valérie Krova.
Des dizaines de manifestants habillés en noir lancent des cocktails Molotov sur les forces anti-émeutes devant le Parlement grec. Celles-ci répliquent en tirant des gaz lacrymogènes. Plus de 180 000 personnes, dont beaucoup de jeunes, étaient venues rendre hommage aux 57 morts de la pire catastrophe ferroviaire qu'ait connue le pays. La Grèce tue ses enfants, pouvait-on lire sur une pancarte. Outre l'erreur humaine imputée au chef de gare, l'enquête a révélé de graves négligences sur le réseau ferré. 40 personnes ont fait l'objet de poursuites, mais aucune n'a encore été jugée. Pour le collectif des familles des victimes de la collision, les responsabilités ont été dissimulées. Elles ont financé un rapport indépendant à des experts. Il a conclu que le train de marchandises transportait une cargaison illégale de produits chimiques, ce qui expliquerait le nombre élevé de victimes. Selon un autre rapport de l'Agence grecque de sécurité des chemins de fer, des preuves ont été détruites dans les jours qui ont suivi l'accident.
Valérie Krova. Emmanuel Macron semble vouloir calmer le jeu avec l'Algérie. Depuis le Portugal, le chef de l'État a signifié qu'il n'était pas question de dénoncer les accords de 1968. 2018, accord qui confère un statut particulier aux Algériens de séjour et d'emploi en France. Le président français qui appelle toutefois l'Algérie à, je cite, « réengager un travail de fond avec la France sur les accords d'immigration liant les deux pays ». Ils mettent également en garde contre tout jeu politique dans ce débat qui enflamme la relation bilatérale. Les votes du budget 2025 et du projet de loi de finances de la Sécurité sociale sont politiquement derrière François Bayrou. Encore faut-il qu'il passe les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Or, les sages viennent de censurer 14 articles du budget de la Sécurité sociale. 13 d'entre eux parce qu'ils sont considérés comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des dispositions qui n'ont pas leur place dans ce texte. C'est par exemple le cas de l'article qui prévoyait de réformer le service du contrôle médical de l'assurance maladie. Et le 14e article censuré laisse sur le fond, c'est celui qui concerne la taxe dite « lapin », Rosalie Lafarge.
C'est l'un des articles emblématiques du texte. Il prévoit une pénalité pour le patient qui n'honore pas son rendez-vous chez le médecin sans prévenir. Une idée venue du Sénat et reprise par Gabriel Attal quand il était Premier ministre dès sa déclaration de politique générale en janvier l'an dernier.
Il y a encore aujourd'hui trop de rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés. Pour les médecins, il est insupportable d'avoir chaque jour des patients qui ont un rendez-vous et qui ne se présentent pas. Pour les Français, il est insupportable de savoir que des millions d'heures sont perdues alors qu'ils attendent parfois des mois pour un rendez-vous. Je souhaite un principe simple. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, on paye.
Le Conseil constitutionnel voit bien, dit-il, l'objectif d'intérêt général poursuivi, mais il reproche au dispositif un certain flou. Pas de définition de la nature de la pénalité en question, pas d'encadrement de son montant ni de ses conditions de mise en œuvre. Ça le rend contraire à la Constitution. Et cela va dans le sens de ceux qui la critiquent, cette taxe lapin. Pas seulement dans l'opposition, d'ailleurs. Aurélien Rousseau, quand il était ministre macroniste de la Santé et pas encore député socialiste, s'y était dit défavorable au Sénat en 2023.
C'est facile d'imaginer une taxe lapin sur les gens qui prennent leur rendez-vous sur Doctolib, pour ne pas citer. C'est plus compliqué pour ceux qui téléphonent, etc. On n'a pas trouvé la solution.
Difficile, voire impossible à mettre en œuvre, susceptible de créer une rupture d'égalité, ces détracteurs la voient apporter plus de problèmes que de solutions. Elle ne fait d'ailleurs pas l'unanimité chez les médecins, ni au sein des gouvernements qui ont dû la défendre. Un autre ancien ministre de la Santé l'assure, on savait que c'était bancal, c'était une fausse bonne idée, un objet politique autour duquel on s'est emballé. Il en est convaincu désormais, ça n'ira pas plus loin.
Rosalie Lafarge. L'abaissement du seuil d'exemption à la TVA était, lui, dans le budget 2025. La mesure touche à une niche fiscale qui permettait aux entreprises qui engrangeaient moins de 37 500 euros de chiffre d'affaires annuel de ne pas payer de TVA, un chiffre descendu à 25 000 euros dans le PLF 2025. La mesure était passée inaperçue avant de faire un tollé dans le monde des petites entreprises et des entrepreneurs. Première suspension jusqu'au 1er mars, décidée par François Bayrou, le temps d'une concertation, elle est finalement prolongée jusqu'au 1er juin. Célia Guetti, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement suspend donc la mise en application, le temps de négocier avec la filière, mais ce répit n'augure pas d'une abrogation.
Non, car même si la mesure rapporterait 400 millions d'euros à l'État, cet abaissement est une harmonisation voulue par une directive européenne de 2020. L'ajout de cette mesure au PLF, sans discussion au préalable, a surpris, voire même engrangé de la colère chez les professionnels concernés, mais ils reconnaissent que les conditions d'abaissement doivent être revues. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des très petites entreprises.
Au niveau du bâtiment, aujourd'hui, on a à peu près 255 000 TPE qui sont hors franchise de TVA, donc qui payent la TVA, et 160 000 qui ne la payent pas. Nécessairement, ce qui est constaté par bon nombre d'entreprises de main-d'œuvre, de peinture, des acteurs économiques sur certains chantiers peuvent leur occasionner une concurrence qui n'est pas saine parce qu'ils ne sont pas aux mêmes règles.
Les représentants du secteur, Bercy et la ministre des TPE, Véronique Louwagie, vont donc plutôt se demander quel seuil d'exonération doit être privilégié. 25 000 euros de chiffre d'affaires, 35 000, 87 000. Impossible de prédire quel chiffre sera retenu, selon Marc Sanchez.
Il faut d'abord qu'on mette sur la table le nombre d'entreprises qui sont concernées par le dispositif, quel est leur poids économique, quels sont aussi les secteurs géographiques qui sont concernés. On a beaucoup de ces micro-entreprises qui sont dans des zones rurales ou dans des villes de moins de 20 000 habitants et qui ont une vraie utilité économique et sociale, et donc il serait quand même assez malheureux de leur imposer un coup de rabot aussi fort dans l'exercice de leur activité.
Entre 300 et 400 000 micro-entreprises bénéficient de cette mesure, selon la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. 43,4% d'entre eux déclarent qu'ils risquent d'arrêter complètement leur activité si l'abaissement entre dans la loi telle qu'elle.
Merci Célia Guetti. On en sait un peu plus sur les nouvelles modalités d'attribution du pass culture, alors que le budget de la part individuelle du pass est passé de 210 millions d'euros à 170 millions d'euros cette année. À partir de demain, il passera de 300 à 150 euros, deux fois moins pour les jeunes de 18 ans, avec une nouveauté, la prise en compte pour la première fois de critères sociaux ou de handicap. Les jeunes concernés pourront bénéficier d'un bonus de 50 euros. La 50e nuit des Césars, ce soir une édition spéciale présidée par Catherine Deneuve et présentée avec non pas un mais 13 maîtres de cérémonie. Pour le palmarès, il y a trois grands favoris, Le Comte de Monte Cristo, L'Amour Ouf et Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard en lice, également pour les Oscars à Los Angeles ce week-end. Évidemment, ces prix peuvent concourir à un plus grand succès des films à l'étranger. Les explications sur cet effet César de Daniela Elsner, directrice d'Unifrance, l'association de promotion du cinéma français dans le monde.
On a pu observer des ressorties en salle suite à des Césars gagnés. En Italie, ils suivent beaucoup les Césars. Donc La Nuit des Douze, il y a quelques années, il était ressorti suite à ces Césars. Les Illusions Perdues aussi en Italie. Et Le Procès Goldman, par exemple, était ressorti suite au César de l'acteur en Belgique. Là, avec la proximité entre les Césars et les Oscars, on peut tout à fait espérer qu'un film comme Emilia Pérez, qui est très attendu sur les deux cérémonies, ça aura forcément un bénéfice positif pour les entrées à venir. Emilia Pérez n'est pas encore sortie dans tous les pays, notamment en Asie, donc ça donnera certainement une communication en plus à faire pour les distributeurs qui doivent sortir le film. Et peut-être d'autres qui vont ressortir Emilia Pérez sur leurs écrans dans d'autres pays. Aussi, il ne faut pas oublier qu'un film français, par exemple, à l'étranger, il sort d'abord en salle et ensuite il va aussi sur les autres moyens où on peut voir, en fait, que ce soit la télévision, que ce soit les plateformes. Et c'est vrai que si Emilia Pérez était déjà sortie en salle ou Le Comte de Monte Cristo et qu'il gagne des Césars, bah, en fait, s'il est sur une plateforme, bah, ça va forcément drainer plus de spectateurs sur cette plateforme.
Daniela Elsner, la directrice d'Unifrance, interrogé par Benoît Grossin. Les cérémonies des Césars, une histoire du cinéma à côté de la grande histoire du cinéma. C'est une info culturelle à retrouver en une du site internet de France Culture. Quand nutrition et politique européenne s'en mêlent, vous l'avez peut-être appris ce matin sur notre antenne, le Nutri-Score ne sera finalement pas obligatoire en Europe. Le Nutri-Score qui note les produits alimentaires de A à E en fonction de leur qualité nutritionnelle. Bonsoir Géraldine Allot.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Ce Nutri-Score aurait dû être généralisé dans les 27 pays de l'Union. Or, la Commission européenne a tiré un trait.
Oui, la Commission avait proposé en 2020 de mettre en place un logo nutritionnel harmonisé et obligatoire au sein des 27. L'idée, c'était d'aider le consommateur à acheter des produits meilleurs pour la santé, moins gras, moins sucrés, moins salés. Le Nutri-Score faisait figure de favori parmi tous les logos existants, car il est déjà adopté par 7 pays, dont la France, qui l'a créé. Il est simple d'utilisation et il est soutenu par la communauté scientifique. Mais tant que l'Europe ne l'impose pas, les marques ne sont pas obligés de l'afficher. Nous avons pu consulter une note interne de la Commission européenne qui date de mars 2023. On y apprend qu'elle ne compte finalement pas proposer aux États membres, je cite, un logo qui existe déjà. Suzy Semner est la responsable de l'ONG Foodwatch à Bruxelles. C'est elle qui a pu obtenir très récemment cette note interne.
C'était politiquement trop sensible de sortir la proposition avec le nom Nutri-Score. Parce que je crois que c'était trop difficile à avaler, j'imagine, pour les Italiens.
Et alors pourquoi, Géraldine, un tel revirement?
Car l'Italie est effectivement opposée au Nutri-Score. Son gouvernement et sa puissante industrie agroalimentaire ont tout fait pour le torpiller. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, en a fait un combat personnel. Les Italiens ont multiplié les rendez-vous avec les hauts fonctionnaires de la Commission, 17 rien qu'en 2022. À chaque fois, ils ont répété que le Nutri-Score n'avait aucune base scientifique, ce qui est faux. Il a été validé par près de 150 publications. Emma Calvert est l'une des responsables du bureau des unions de consommateurs à Bruxelles. Elle a eu accès au compte-rendu de ces rendez-vous.
On est passé de la désinformation à l'absurde lorsque l'Italie a déclaré que la généralisation du Nutri-Score risquait d'entraîner des difficultés économiques pour les producteurs de cacao dans les pays pauvres et que par conséquent, cela entraînerait une hausse de l'immigration en Europe. Voilà le genre d'argument extrémiste que l'on a entendu à propos d'un simple étiquetage nutritionnel de produits alimentaires.
Contacter la Commission européenne répond que la question du logo nutritionnel est complexe et qu'il est difficile de parvenir à une solution commune. Des sources politiques françaises au Parlement européen nous expliquent qu'Ursula von der Leyen avait besoin du soutien de Giorgia Meloni pour être réélue à la tête de la Commission en juillet dernier et qu'elle aurait donc cédé à ses exigences. Pour Michele Piccaro, député européen Fratelli d'Italia, le parti de Meloni, c'est en tout cas une victoire.
Le combat contre le Nutri-Score est un combat politique important pour le gouvernement Meloni. Nous avons convaincu les institutions européennes de reconsidérer cette réglementation. C'est une victoire importante, mais nous restons vigilants. Nous surveillons ce qui se passe à Bruxelles et nous serons toujours prêts à agir pour protéger notre alimentation.
Une source diplomatique à Bruxelles nous confirme que le projet de Nutri-Score obligatoire ne verra pas le jour dans les prochaines années.
Merci Géraldine Allot. Votre enquête édifiante est à retrouver sur radiofrance.com. Un mot du temps. Les nuages sont tenaces sur le sud-est et de belles éclaircies partout ailleurs. Les températures maximales sont comprises entre 6 et 10 degrés sur les deux tiers nord, entre 10 et 14 plus au sud. Ce journal est désormais terminé. À la technique, Paul Guigues.